des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter cette émission des livres plein les oreilles. J'espère que vous avez pu feuilleter des pages et des pages, écouter des chapitres et des chapitres de beaux livres qu'on vous présente ici à cette émission à chaque semaine. Aujourd'hui, je vais retrouver notre ami Jean Brière. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Jean à cette émission-là. En seconde partie, il y a Luc Mercure, bénévole, qui va venir nous parler d'un livre aussi qu'il a beaucoup apprécié. Il s'agit de Les inquiétudes de Jean-Simon Desrochers. Et puis, mon invité en première partie de cette émission, ce sera Dominique Bertrand pour un livre qui s'appelle Le cœur gros. Et je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, mais c'est un titre et c'est une image qui m'a, rappelé quelques souvenirs. Je me suis dit, il faut qu'on en parle avec Dominique Bertrand. Et elle est là. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Mais sans plus tarder, on va se diriger vers Québec avec Jean Brière. Bonjour Jean.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Mais je vais très bien, écoutez, vraiment, je peux pas... Je suis une femme comblée, satisfaite. Ça fait 3 semaines que je fête mon changement de décennie et ça me va très bien en fait, j'ai l'impression que...
Ah, c'est ça qui vous rend heureux, là.
Oui, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, 60, c'est l'horreur. Mais pas du tout, j'adore ça.
J'osais pas vous demander quelle décennie vous commenciez.
Ben, je suis passé de 30 à 40, enfin en fait, mais non, c'est ça. Bon, si nous arrêtions de parler de mon saint anniversaire, Jean, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre que je voudrais que vous nous présentiez, s'il vous plaît.
Oui, un roman bouleversant qui s'appelle « Station Eleven ». Eleven, le chiffre 11 en anglais. Un roman de 424 pages qui a été écrit par une dame, Emily St. John Mandel, une dame de 38 ans. Hein. Et le roman a été publié, c'est très récent, 2016. Il est disponible à INCA.
OK, d'accord.
Et je précise que j'ai du goût parce que j'ai lu ce roman avant même qu'il soit promu. Il a reçu un titre de prix des libraires de 2017.
Ah oui,
à Montréal.
Hein? OK, oui. D'accord.
L'auteur est venu le chercher au printemps.
OK, oui. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous faire découvrir. Alors, ce livre bouleversant, pourquoi?
Alors, c'est un roman de science-fiction, d'anticipation. Certains appellent ça un roman de dystopie là, qui imagine un avenir sombre pour l'humanité. Et c'est un roman canadien, comme on l'a mentionné. Bouleversant, j'y reviens un peu plus tard. Je vous décris brièvement l'histoire.
Oui.
C'est que dans ce roman, une épidémie de grippe foudroyante tue 99% de la population. Et en peu de temps, là, la civilisation telle qu'on la connaît s'effondre, disparaît. Les humains qui survivent sont pas chanceux parce qu'ils doivent composer avec une nature sauvage, mais ils reviennent pratiquement à l'âge du cheval. Il n'y a plus de gouvernement, plus de technologie, plus rien, plus de médecins, plus d'électricité, de pétrole, etc. Alors, la vie redevient très, très...
sauvage, à l'état brut. À l'état brut.
Oui. Les gens doivent se débrouiller avec des vestiges de la civilisation, des objets, des véhicules automobiles, des véhicules de camions, de toutes sortes de trucs, mais plus rien ne roule. On les fait tirer par des chevaux. Et puis, 20 ans après la pandémie, bien, il y a des survivants qui se sont installés dans des petits villages, dans des hameaux. Et on suit une troupe de théâtre qui circule au travers de ces hameaux-là pour aller divertir un peu la population avec des pièces de théâtre de Shakespeare et un peu de musique avec tous des instruments acoustiques.
Oui.
On n'a plus d'électricité.
Construit avec les moyens du bord.
Ouais,
sûrement.
J'ai reçu des fois des vestiges
OK.
du temps passé.
D'accord, les artefacts.
Les maisons, les magasins, les infrastructures sont restées debout, mais
Oui.
en général, sont devenues inutilisables faute d'électricité. Hein.
Oui.
Alors, puis cette troupe de théâtre, il lui arrive toutes sortes de vicissitudes. C'est très, très intéressant. La vie des humains est devenue, elle est toujours possible, mais elle est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et elle est devenue très, très difficile. Les maladies sont souvent mortelles,
Bien
faute de
sûr,
soins.
bien sûr.
Et puis, évidemment, comme dans toute situation chaotique, ben, il s'installe un certain totalitarisme, une terreur causée par des bandes armées. Alors, c'est le Far West, c'est le retour du Far West tel qu'on l'a vu dans des films dans le passé. Alors,
Et c'est peut-être un petit peu, excusez-moi de vous interrompre, Jean, mais à l'image de vos derniers mots, je me disais, ça ressemble aussi quelque part à ce qui peut se passer en ce moment ici, alors que nous sommes encore en pleine civilisation, électrifiée, numérique, voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est voulu pour ça, mais... moi, je pense à ça tout de suite, parce que je veux dire, les cow-boys, hein, il y en a partout en ce moment dans la vie. Hein.
Oui, puis parfois, la réalité dépasse la fiction. Ça,
c'est Dominique Bertrand qui s'exprime là et qui nous souffle
ces mots.
Bonjour,
M. Brière.
Bonjour, Mme Bertrand.
Alors, qu'est-ce qui... Vous avez ouvert...
Mon expression bouleversante.
Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est très bouleversant parce que... ce roman-là est justement renversant de réalisme. Souvent, dans des romans de science-fiction, dans des romans qui imaginent des catastrophes, les catastrophes sont causées par les humains ou par des méchants qui ourdissent des complots extrêmement compliqués. Là, c'est tout simple. Un virus dangereux, un virus inconnu des humains qu'on n'a pas vu venir et qu'on n'est pas capable de soigner, ça tue la population. Les gens restent pris avec des infrastructures dont ils ne peuvent plus vraiment s'utiliser. Et ce qui est bouleversant, c'est que c'est plausible. Ça peut arriver.
C'est ça.
Ça pourrait arriver.
Oui, ça fait froid dans le dos, hein?
Oui, quand on sait que tout le monde a le doigt sur le bouton rouge actuellement les armes nucléaires, c'est des choses qui peuvent se produire.
Et quand on sait que les scientifiques s'intéressent de près à la fonte des glaces qui font surgir ou ressurgir des virus qui étaient jusqu'à
qu'on
présent...
Qu'on pensait éradiquer.
Ben voilà, qu'on pensait être éradiqués, puis qui sont en train de ressortir. Alors, c'est pas... J'ai une question pour vous, Jean. Vous nous l'avez dit, c'est une œuvre de science-fiction. Les gens qui n'aiment pas la science-fiction, est-ce qu'ils pourraient malgré tout aimer ce livre? Parce que là, j'en entends déjà nous dire « Oui, mais moi, la science-fiction, j'aime pas ça.
Ouais. »
Mais moi, il me semble que ce bouquin-là, ça va au-delà quoi, de l'œuvre de la science-fiction. Ça va au-delà de, je sais pas, d'une ou... Non?
Vous savez, on le classe parmi science-fiction, mais c'est pas tout à fait le cas.
Ouais,
c'est plus
ça.
Anticipation. Parce qu'il n'y a pas vraiment de science assommante là-dedans, puis d'explications complexes.
Ouais.
C'est ça qui est fantastique, c'est que souvent on imagine des scénarios extrêmement complexes et extrêmement invraisemblables, alors que celui-là, il est vraiment très, malgré tout, très possible. Puis on assiste vraiment dans des flashbacks à la chute de cette civilisation-là telle que... et c'est très, très émouvant.
Ah,
c'est très émouvant. C'est palpitant, ça se lit bien, c'est bien écrit. La jeune auteure, je pense que je peux y établir une filiation un peu avec Margaret Atwood, j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Mais oui, parce que quand on pense à La Servante écarlate, c'est quand même aussi... elle écrit en anglais et c'est traduit? Ou est-ce
oui, c'est traduit, c'est très bien traduit.
C'est très bien traduit.
C'est un très, très beau roman. Et je pense que c'est une auteure qui a de l'avenir. Je vais surveiller son nom dans les prochaines années.
Mandel, M-A-N-D-E-L. Hein,
oui, Mandel, exactement.
Okay. Quelques critiques que j'ai glanées à droite et à gauche. Dans Le Figaro, on écrit « L'auteure canadienne a imaginé un monde fantôme, donc cauchemardesque, hein, vous l'avez dit, peuplé de silhouettes vacillantes et de prédateurs illuminés. » dans Télérama, on disait « Dans ce roman post-apocalyptique, la chute de l'humanité se fait tout en douceur, l'occasion d'un bel hymne à l'art qui nous sauvera tous. » Parce que le théâtre, hein, et notamment le roi Lear hein, de Shakespeare, c'est un personnage central hein, dans ce livre-là, Jean Brière.
Tout Tout à fait, tout à fait. L'histoire commence justement lors d'une pièce, d'une représentation de cette pièce de théâtre de Shakespeare. Et puis tout au long, on y fait référence. Parce qu'il faut être très bien éveillé quand on écoute ce roman, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de remontées dans le temps, de retours. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Et puis il y a des passages savoureux, des passages fantastique.
Ah, oui. Bon.
On voit que les gens qui ont survécu, ceux qui se souviennent du temps passé, ils vivent dans cette nostalgie, dans cette mémoire du temps passé. Oui. Et les plus jeunes, parce que l'action principale se déroule 20 ans après la catastrophe, eux, on leur parle du temps passé qu'ils n'ont pas connu.
Oui. Et oui.
C'est vraiment fascinant.
Oui, exactement, parce que là, les mômes qui n'ont jamais connu, ne serait-ce que l'électrification, c'est quand même... C'est quand même quelque chose, quoi.
Oui, et les gouvernements, la police,
l'organisation sociale.
Voilà, c'est ça. Oui. Et puis l'art comme mécanisme de survie. Hein, dans Le Devoir, je ne sais plus quel journaliste, quel critique avait écrit cette phrase que j'avais trouvée très belle. Puis il disait, c'est peut-être ce qui subsiste de plus fort dans Station Eleven. Juste pour finir, Station Eleven, ça correspond à quoi exactement? C'est un endroit de vie où se retrouvent tous ces gens-là?
Non, c'est une bande dessinée qu'avait écrit un personnage et qui a survécu, qui s'est transmis dans les années après la catastrophe. Et on y fait, les gens qui n'ont pas connu le contexte de la bande dessinée, ils font des interprétations, comme aujourd'hui on fait des interprétations à partir d'artefacts préhistoriques.
Vraiment formidable. J'ai très envie de me plonger dans ce livre-là, Jean. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Je rappelle le titre, Station Eleven, Eleven comme 11, d'Emily St. John, comme ça se prononce, comme John le prénom ou la ville, Mandel, M-A-N-D-E-L. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir parlé avec tant d'éloquence de ce bouquin-là. Vraiment, ça donne envie.
Ça a été un plaisir. Passez une belle journée.
Au revoir,
vous aussi.
Brière.
Au revoir, Jean. Bonne journée. Rebonjour Dominique Bertrand.
Rebonjour.
Ravi vraiment de vous recevoir.
Merci
à
beaucoup
cette...
de m'inviter.
Mais écoutez, ça nous fait plaisir. J'ai envie d'abord de vous demander, avant qu'on embarque dans vos livres, d'abord c'est comment allez-vous et que faites-vous, Dominique? Parce que depuis que j'ai dit à droite et à gauche que je vous recevais, ils m'ont tous dit, mais elle fait quoi maintenant, Dominique Bertrand?
Ben, j'écris chez moi en pantoufles dans ma cuisine.
Dans votre cuisine?
Dans ma cuisine.
C'est vrai?
Alors, j'ai tous les meilleurs endroits du monde pour écrire, puis finalement, j'aboutis toujours dans la cuisine. Je trouve que c'est le cœur de la maison.
Ouais.
Et je ne sais pas pourquoi, quand je veux m'évader, en plus de mon labeur, ben, je peux toujours aller grignoter un biscuit, me prendre une pomme. Bon, alors la cuisine est devenue pour moi un lieu de travail.
Le labeur, pas facile d'écrire. Hein?
Non, très difficile.
Ah, c'est vrai?
Très, très, très difficile. Je dirais même que je pense que plus c'est facile à lire, plus ça a été difficile à écrire.
Ah oui?
C'est très, très difficile. Pour moi, ça demande une discipline que je n'ai pas spontanément.
Uh-huh.
Alors, je suis toujours tentée d'aller manger avec une amie, d'aller prendre un bain, d'aller promener mon chien. Bon, mais je m'astreins à chaque jour à lire, à travailler, à regarder mon manuscrit. Henry Miller a déjà dit, on ne peut pas créer tous les jours, mais on peut cimenter notre texte tous les jours. Alors, parfois, quand je sens que l'inspiration me manque, mais au moins, je travaille à la qualité de mon texte. Et puis, chaque jour, je dois m'asseoir devant mon manuscrit. Si je m'éloigne, je perds le souffle.
Même le samedi, puis même le dimanche.
Oh, ça, mon mari veut pas, mais moi, je trouve toujours un moyen de le faire en cachette.
Alors, y a ce livre qui m'est tombé dans les mains. Donc, on va commencer par ce troisième. Et je voudrais aussi qu'on aborde deux autres livres que vous avez écrits précédemment. Et je précise que les trois livres sont disponibles via le SQLA, qui est ici le service québécois du livre adapté, donc que nos auditeurs connaissent bien. Le cœur gros. Je vous présente la page de couverture représente une enfant, un ou une enfant, mais non, une enfant,
oui.
Très, très enveloppée. Alors, elle est présentée comme une toile, hein, comme on peut imaginer une toile.
Parce que c'est ça, en réalité.
C'est ça, hein, c'est ça.
Oui, exactement. C'est une personne, c'est une enfant qui a déjà existé à la cour d'Espagne.
D'accord.
Et d'ailleurs, on retrouve ce tableau-là au Prado. Et cet enfant était invité à la cour d'Espagne pour qu'on rie d'elle. Alors, c'est une enfant obèse et qui amusait les gens par la différence de son physique. c'est pas anodin que je l'ai. Mais j'ai décidé de la mettre sur la page couverture.
C'est pour ça que je voulais commencer par cela.
Oui. En fait, cette image-là annonce toute la souffrance que le personnage central va vivre.
Exactement. Et en même temps, une souffrance. Je me faisais la remarque en lisant ce livre. J'ai trouvé que, oui, souffrance, mais en même temps, elle se plaint rarement. Je veux dire, oui, il y a des fois où tout d'un coup, ça sort d'elle. Elle en a marre. Et c'est d'ailleurs bouleversant. À un moment donné, je vous en lirai quelques extraits. Bon, comme par exemple, tenez, là, en page 38, ici, j'avais relevé ça, une phrase que j'ai trouvée vraiment terrible. Ah oui, c'est lorsqu'elle apprend que la grossesse, ça défigure les mamans, et que bon, sa mère, qui ne pense qu'à la beauté, etc.,
elle est obsédée par l'image.
Et la petite dit, bref, c'est ainsi que j'appris ce soir-là qu'il est possible à un simple poupon de détruire à jamais la beauté de sa mère. Ouf.
C'est dur, hein?
Ouf. Voilà comment j'ai découvert, accroupi sur la première marche du haut, quel bébé j'avais été. Une reine de la tétée. Quoi, une ogresse de l'allaitement, rien de moins qu'un vampire sans scrupules, suçant en même temps que le lait de ma mère toute la gloire éclatante de sa jeunesse, pour ensuite l'expulser au fond d'une couche huggies, je ne sais pas si on dit comme ça, inextricablement mêlée aux produits gluants de mes intestins. Ah non, mais en plus, je veux dire, elle est pas idiote, hein,
non.
Mais puis...
Elle est très intelligente.
Elle est très intelligente, elle est très éveillée, mais quelle souffrance!
Oui, une souffrance, un isolement.
Voilà, c'est ça.
La sensation de ne pas être comprise.
Oui,
voilà. Elle doit passer à travers ça.
Mais en même temps, elle a la volonté de s'en sortir, elle a la volonté de passer outre, elle a la volonté...
Elle veut vivre. Elle veut vivre des choses. Elle veut vivre de l'amour.
Elle veut
morte dans la vie. C'est une enfant sensible, talentueuse, musicienne.
Et comme vous le disiez,
une enfant supérieurement intelligente.
Intelligente.
Alors pour elle, elle se sent prise dans un univers qui n'a rien à voir avec elle, où les valeurs qu'on impose socialement lui interdisent, dans le fond, de cette liberté-là de vivre, elle a l'impression qu'elle vole sa vie.
Oui, exactement.
Oui.
Et alors, comme vous le dites très justement, elle est donc très différente de tous ceux qui l'entourent. Elle a une sœur qui est une beauté fatale,
splendide.
Elle a un frère, bon, c'est un gars.
Exactement.
C'est un gars de cet âge-là.
Un monosyllabique, qui rate jamais une occasion de lui envoyer des niaiseries.
Exactement.
Bon, alors, c'est pas lui qui va prendre sa défense.
Le père, tu sais, qui a un humour un peu gras.
Le père l'appelle mon petit lard d'amour. Ça aide pas beaucoup.
Puis la mère, elle la voit pas. Alors comme ça, la mère...
Non, l'enfant est absolument...
Inexistante,
transparente, aux
yeux
de la mère.
Pour éventuellement descendre le chandail quand il y a un bout de bédaine qui
dépasse. Oui, exactement. En fait, t'es visible, mais pas de la bonne façon. Essaie de disparaître encore plus. C'est un peu ça.
C'est rough. C'est vraiment très dur. Mais par contre, je vais vous dire bravo, Dominique, parce que... Il n'y a jamais d'apitoiement.
Non.
Jamais, de la part de cette gamine.
Oui, il y a vraiment de la résilience chez cet enfant-là, une détermination incroyable. Et puis, on la sent, malgré tout, assez en contrôle. On sait qu'elle va s'en sortir. On sait qu'elle va aller loin.
Oui, c'est vrai. Hein?
Oui, on sent ça.
Oui, c'est vrai. Je me suis... D'ailleurs, il y aurait peut-être... Non, pourquoi je penserais une suite?
C'est drôle, ma mère m'a dit ça aussi. Je ne pense pas qu'il y ait de suite. En fait... Je pense que je voulais justement laisser le lecteur imaginer la vie de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'elle va choisir comme suite à sa vie?
Alors voilà, je le disais, il y a des passages douloureux. Soucieuse de mon image, maman me fait des signes discrets pour me rappeler de tirer sur mon pull. Hein, je viens d'en parler.
Ouais.
Au bout du compte, la condition adipeuse est un art qu'on ne peut maîtriser qu'en ayant des yeux tout le tour de la tête.
Oui.
C'est très bien écrit, avec des passages comme ça. Un autre ici. La fatigue me gagne et la force me manque pour me détourner. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas le choix de prendre la mesure exacte de mes dégoûtants débordements dans la glace. Donc, elle est devant une glace. C'est l'une des rares fois où elle prend conscience de son image
et elle prend conscience de à quel point ce n'est pas dans les canons de la beauté actuelle.
C'est ça.
Oui.
Assise sur le tapis... Que moirent les rayons du coucher de soleil flamboyant, je luis au beau milieu des bourrelets qui me protègent et m'étouffent à la fois. Un gros ver à soie de tout juste 11 ans, quoi. bien rondouillard et couvert de replis, en peut-être rien qu'une grosse patate finalement, que les souvenirs de la fête qui prend fin n'arrivent soudain plus à exalter. Hein, on ne dira pas tout parce que je n'ai pas envie qu'on vous révèle absolument tout, mais il y a quand même un élément très important, c'est qu'à un moment donné, elle tombe passionnément en amour.
Passionnément en amour avec le plus beau gars de l'école.
Évidemment. Évidemment.
Qui en a rien à cirer, on s'entend. Exactement.
Exactement.
Alors ça, pour elle, c'est vraiment très difficile. Et parallèlement à tout ça, on ne dira pas comment, mais elle perd sa meilleure alliée. Elle perd l'accès à sa meilleure alliée, qui était sa grand-mère.
Sa grand-mère.
Et qui ne meurt pas, mais qui n'est plus dans le portrait. Et pour elle, c'était la seule personne qui pouvait la comprendre et qui l'aimait malgré ses différences et qui lui donnait son estime d'elle-même, qui boostait sa confiance en elle.
Sans compter qu'elle se sent très coupable parce que la mamie en question est victime d'un accident cérébral, vasculaire, et que la môme était en train d'écouter de la musique à fond la caisse pour cacher le fait qu'elle mangeait des chips.
Oui.
C'est une image terrible, quoi. Donc, pour éviter qu'on entende les
choses.
Alors, une culpabilité terrible, en plus pour celle qui l'a finalement...
Oui, comment on gère ça quand on a 11 ans?
Comment on fait ça?
Il n'y a pas personne pour la supporter, pour l'écouter. Il n'y a pas personne pour entendre sa souffrance à cet enfant-là, son inquiétude. Elle est toute seule.
Oui.
Elle est toute seule.
Et alors, il y a donc ce Sacha, qui est un petit con, quoi, disons-le.
Clairement.
Un petit fa, oui.
C'est exactement ça. Mais qui, lui-même, au fond, est un peu victime des autres enfants, quand on y pense bien.
Oui.
Alors, lui, elle rencontre ce garçon-là, qui est un ami de son frère, et puis elle est amoureuse folle, là, franchement. Oui. J'évoque d'ailleurs les émois érotiques que ce garçon-là... provoque chez elle, sans jamais vraiment nommer ça, parce qu'on parle d'une enfant de 11 ans, mais qui est en plein éveil des sentiments et de la sexualité,
bien sûr.
Le fond.
Alors, le petit poussin, image.
Oui, exactement.
Le petit poussin dans la culotte.
Oui.
Non, mais c'est comme ça. C'est là, tout d'un coup, quand elle ressent pour la première fois ce qu'elle le désire, finalement, elle a l'impression qu'il y a un petit poussin
qui s'éveille dans ses culottes.
En tout cas,
je trouvais que c'est très poétique.
Absolument.
Et puis, ça finira pas bien, cette histoire-là.
Non.
Ça finit pas bien. Et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui vivent ce genre de désillusion, de désespoir,
absolument,
pour toutes sortes de raisons. Vous savez, quand on est jeune, toutes les différences sont difficiles à assumer. Elle, c'est une obésité. Dans mon cas, c'était la maigreur. Et j'ai vécu... En fait, j'ai beaucoup pigé dans mes propres émotions d'enfant pour créer Ariel. Puis... Pour d'autres enfants, c'est d'avoir les yeux croches. Pour d'autres enfants, c'est de porter des lunettes. Pour d'autres enfants, c'est d'avoir un handicap physique. Quand on est jeune, être différent, c'est toujours extrêmement difficile à assumer.
Oui, surtout que les jeunes entre eux c'est d'une méchanceté.
Exactement, ça pardonne pas. Là.
Les cours d'école, là.
Non, c'est terrible.
C'est violent.
Exactement. Dire, elle est prise avec, comme on disait tout à l'heure, avec une mère qui valorise l'image et avec une sœur qui est splendide et que le monde entier va découvrir publiquement.
Mm-hmm.
Alors, elle se dit, moi, qu'est-ce qui me reste, finalement?
Qu'est-ce qui me reste? Donc, les gens qui, comme moi, se sont posé la question, comment se fait-il qu'une femme comme Dominique Bertrand, vous avez été mannequin, bien sûr, on le rappelle, entre autres, donc vous connaissez
J'ai
ça
beaucoup
aussi,
travaillé
vous avez
par
beaucoup
mon
travaillé,
image. Oui, exactement,
par votre image.
Oui.
Alors, on ne s'attend pas à trouver ce livre-là écrit par vous, mais je me doutais qu'il y avait quelque chose...
C'est ma propre souffrance dans un corps à l'opposé
exactement.
Du mien. Alors, j'ai pris une enfant obèse, mais dans mon cas à moi, j'étais maigrichonne, j'étais le vilain petit canard, j'étais moche. Et sincèrement, j'étais seule. J'étais seule parce que j'étais différente. J'aimais écrire, j'aimais lire. Je jouais pas à la poupée comme les autres filles. Alors, j'étais pas mal toute seule dans mon coin. Fait que cette souffrance-là, je sais ce qu'elle peut faire, puis je sais comment elle peut nous ronger par l'intérieur. Alors, je l'ai transposé sur Ariel.
Oui, surtout que c'est le moment... que j'ai trouvé le plus difficile, au début, qui m'a fait sourire lorsque il y a l'affaire du roast beef. Ils font cuire un roast beef à la maison, puis ils s'aperçoivent qu'il était tellement gras que finalement, il reste plus grand-chose au bout une fois qu'il est cuit. Et là, elle se dit, mais voilà, c'est ça l'idée. Alors, elle se plonge dans un bain bouillant en étant sûre que ça va la faire fondre. Puis évidemment, ça ne fonctionne pas. Et là, elle découvre les joies, entre guillemets, de la scarification.
Oui, exactement. Alors,
elle essaie
de s'ouvrir pour faire couler le gras.
Ouais.
Et ça, j'ai fait quand même quelques recherches là-dessus. Et il y a une psychiatre de l'hôpital Sainte-Justine qui me disait, C'est terrible, cette façon de faire.
Ouais.
Mais il faut leur trouver, à ces gens-là, une autre façon d'évacuer leur frustration,
exactement,
leur tristesse, leur rage. Parce qu'elle dit, mais le drame, c'est que ça fonctionne, ça réussit à apaiser leur souffrance, mais c'est une manière qui n'est pas saine.
Non,
il faut qu'on leur apprenne
ça.
D'autres façons d'évacuer cette souffrance.
Exactement.
Puis elle se rend compte que, ben non, finalement, quand elle se découpe, quand elle se coupe elle-même, il n'y a que du sang, il n'y a pas de gras qui
non,
sort de là.
C'est ça, exactement. Non. Mais il y a un moment donné où, malheureusement, l'exacto devient l'ami et le complice.
Oui.
C'est comme les bonbons, quoi.
Oui, exactement, comme les bonbons, parce qu'elle mange tout le temps.
Elle mange tout le temps, oui.
Et je vais vous dire, moi, j'ai un ami qui a lu mon livre après avoir été opéré pour un cancer à la gorge et qui ne pouvait pas manger pendant de longs mois alors qu'il était gavé.
Ah, oui.
Il m'a dit, c'était un supplice. J'avais tellement envie de manger des bonbons. Les gens
oui,
qui ont lu mon livre m'ont dit, ça nous donne envie de retrouver les bonbons de notre enfance à se gave sans arrêt de bonbons. Là, ça n'a pas de bon sens.
Non, non, c'est ça. Ouais. Écoutez, c'est un... Par contre, je voudrais pas qu'on pense, parce qu'on parle là de scarification.
Mais c'est pas triste.
C'est
non,
pas triste.
C'est pas
ce n'est pas,
triste.
Ce n'est pas
on
du
sourit
tout.
Beaucoup.
Non, on sourit, même on
et
rit.
Même on
même.
Rit. Oui.
On rit, mais il y a ces moments-là quoi, qui nous rappellent que cette môme est en détresse.
Oui, exactement. Puis je l'ai écrit aussi en me disant si ce livre-là pouvait pousser les parents à être plus à l'écoute des signaux de détresse que les enfants donnent.
Oui. Absolument.
J'aurais réussi quelque chose.
Eh bien, bravo. Alors, c'est Le Cœur Gros, signé Dominique Bertrand. Dominique, il ne nous reste plus qu'un petit 2 minutes.
Oui.
On a aussi Démaquillé.
Démaquillé, qui est un livre à saveur autobiographique où
d'accord.
je raconte un peu les valeurs qui m'ont aidé à traverser des moments difficiles dans ma vie.
Okay.
Qui s'est vendu à 25 000 copies. Alors, ça a trouvé preneur, ça a trouvé écho chez beaucoup de gens. Et puis aussi, Le Poteau Rose, qui est l'histoire d'une femme un peu folle, qui découvre des évidences que son mari la trompe. Alors, c'est un roman qui me permet de faire dire à ce personnage-là toutes sortes d'absurdités sur la sexualité, sur la relation homme-femme, sur les hommes, sur le travail, sur l'argent. C'est un roman, c'est un page-turner, celui-là. Vraiment, il se lit avec une chute, une fin qui est...
Inattendue.
Complètement inattendue, oui.
Dominique Bertrand, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Je suis vraiment très contente. Alors, ne manquez pas. C'est 3 livres. C'est très bien écrit. C'est très vivant. Ça se lit très, très rapidement, Dominique, vraiment. Le Cœur Gros, mais également, on vient d'en parler à l'instant, Le Poteau Rose et Démaquillé.
Merci.
Dominique, j'ai bien hâte de lire le 4e et puis on vous réinvitera pour le 4e.
Merci, c'est très gentil.
On ne vous demande pas le thème ni rien parce qu'il faut...
Paternité.
Ah, paternité.
Ouais.
Un mot, merci.
Compliqué.
Tout est dit. Salut. Merci Dominique
merci
Bertrand.
Beaucoup.
Au revoir. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors voilà, Dominique Bertrand a quitté le studio, mais comme nous en avons l'habitude à cette émission, je vais avoir l'occasion pour vous de vous lire un large extrait, du moins pendant quelques minutes. Ça va vous donner une petite idée de encore plus peut-être qu'une entrevue de ce qu'est ce bouquin Le Cœur Gros qui est venu nous présenter Dominique Bertrand. Alors on se rappelle qu'il s'agit d'une gamine de 11 ans. Elle est obèse, elle est évidemment en souffrance, mais cela dit, c'est une vaillante, c'est une môme volontaire, enthousiaste, c'est une gamine qu'on devine très intelligente et comme on se le disait un petit peu plus tôt, à l'émission, c'est une gamine, on n'a pas peur pour elle, elle va s'en sortir dans la vie, c'est sûr. Et ne voilà-t-il pas qu'à un moment donné, cette gamine tombe amoureuse, très amoureuse, du gars certainement le plus beau de l'école, mais aussi certainement le plus bête. Alors, la voici au moment où... Elle est en amour. J'ai décidé d'annoncer à ma famille mon nouveau statut. Je n'ai rien à cacher, après tout. Il n'y a pas de quoi avoir honte. En tout cas, je n'ai pas l'intention de passer par 4 chemins. J'ai trouvé l'amour. Voilà ce que je vais leur dire. Aussi simplement que ça. À moins que je ne décide d'y aller d'un enthousiaste, je suis follement amoureuse. ou, peut-être encore mieux, d'un triomphal et solennel. Eh bien voilà, c'est fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ce qui risquerait de les assommer d'aplomb, si vous voulez mon opinion, considérant mon jeune âge d'abord et aussi le peu d'intérêt que j'ai démontré jusqu'ici pour les garçons. Sauf en ce qui concerne Justin Bieber, évidemment, dont la beauté m'a toujours donné le vertige, mais qu'il ne sert plus à rien d'évoquer, puisqu'il est tombé au rang de pitchou dès que Sacha a passé le seuil de notre maison. Bref, c'est ce matin que le chat sort du sac, un point c'est tout. Inutile de dire que je peux voir d'ici la mâchoire de chacun se décrocher de stupéfaction, d'autant plus que personne ne se doute de rien. Ce qui est surtout vrai pour mon innocent de frère qui me trouve totalement indigne d'aimer puisqu'il me juge incapable de plaire à quiconque. Maman fait son entrée dans la cuisine, précédée des cliquetis de ses bracelets d'or et du claquement vif de ses manolos à lanières flambant neuf. En la voyant apparaître, tout le monde retient son souffle, moi, tout à ma hâte de dévoiler mon secret, et les autres, curieux, portés par l'espoir qu'elle raconte enfin, ce qui a bien pu pousser Macha à téléphoner aussitôt. Mais au lieu de s'empresser de cracher le morceau, maman fait mine de ne pas remarquer nos visages tendus d'impatience et choisit plutôt de faire durer le suspense en allant d'abord se verser tranquillement un verre de jus d'orange, une manière comme une autre de nous dire poliment « Je parlerai quand je le voudrai, bande d'enfoirés. » Du maman tout chier, quoi. « Et alors ?» balance papa, en refermant brusquement son porte-document. « Et alors quoi ?» répond ma mère, trop heureuse de faire languir sa marmaille suspendue à ses lèvres. « Est-ce trop te demander de nous dire ce qui nous a valu ce dérangement matinal, ou plutôt nocturne, auquel je dois mon air de déterré ?»« Oh, vous n'allez pas y croire !» lance maman, en trépignant. « Franchement, pour une bonne nouvelle, c'en est toute une. « Moi aussi, j'ai une super nouvelle à annoncer !» dis-je précipitamment avant qu'il ne me soit plus possible de placer un seul mot, ce qui me semble imminent. « Non mais bon sang, Jackie, accouche, qu'on baptise !» s'exclame papa, qui tente de dissiper le son de ma voix en se frottant les oreilles comme pour se débarrasser d'un bruit parasite. « On n'a pas toute la vie !»« C'est Anaïs !» finit par lâcher ma mère, indifférente elle aussi à la déclaration que je viens de faire et complètement aveugle à ma main qui est restée perchée dans les airs dans l'espoir de mieux attirer l'attention. « C'est Anaïs !»« Ben quoi, Anaïs ?» demande papa de plus en plus agacé. « Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'Anaïs peut bien avoir à faire avec cette foutue Macha ?»« Elle a été choisie, Olivier, tu te rends compte ? Elle a été choisie !» Grâce à Macha qui s'en est mêlée, elle sera la vedette d'un reportage mode dans le fameux magazine « The Fashion Bible ». Une sorte d'égérie, quoi. On la verra partout. Figure-toi, n'est-ce pas formidable ? Du coup, on croirait que le visage de papa se fragmente comme de la pâte à tarte sous une fourchette enragée. Pff, mieux vaut être sourd que d'entendre ça. Non mais dis donc, ta fille est sur le point de devenir une star de la mode, et c'est tout ce que tu trouves à dire ? Je t'emmerde, tiens ! Dit tristement papa, en saisissant son trousseau de clés. Je te pensais fêlé, Jackie, mais là vraiment, tu atteins des sommets inégalés. « Ma fille, mannequin à 9 ans. Non, mais vous êtes complètement taré, hein, ta copine et toi. » Quand je vous le disais que ce livre n'est pas triste, hein, mais alors pas du tout, du tout, du tout, même si la gamine est terriblement désespérée, comme vous pourrez le découvrir en lisant « Le cœur gros » de Dominique Bertrand. Bon, on passe complètement à autre chose avec Luc Mercure. Bonjour Luc.
Bonjour Clotilde.
Toujours bénévole.
Toujours, avec plaisir.
Toujours avec plaisir, oui, toujours aussi un grand voyageur, parce que alors, vous, il faut vous attraper, hein.
Entre deux
valises.
C'est ça.
vous avez dit voyage, moi j'ai dit valise. Alors aujourd'hui, vous avez eu la chance de venir nous retrouver pour oui. nous présenter quel livre?
C'est le dernier livre publié par Jean-Simon Desrochers, qui n'est pas son premier livre. Alors ça s'intitule « Les inquiétudes ». C'est le premier tome d'une série de deux. La série s'intitule « L'année noire mm-hmm. ». Et le deuxième tome paraît cet automne. Sous le titre de « Les inquiétudes ». Alors, c'est une bonne brique. C'est probablement publié en deux tomes parce que c'est volumineux. C'est à peu près 600 pages et ça m'a demandé à peu près 17 heures de lecture.
Ah donc, oui, écrit petit
oui,
quand
oui,
même.
Oui, tout à fait. Hein? Alors, Jean-Simon Desrochers est un professeur, enseigne entre autres la création littéraire à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Il a publié deux recueils de poésie au début des années 2000. Et en 2009, il lance vraiment une bombe dans le milieu littéraire québécois en publiant en 2009, donc « La canicule des pauvres ». Qui est un roman qui a fait sensation, qu'on a qualifié d'un peu trash, mais d'hyper réaliste. dans laquelle il décrit une journée de canicule dans Schlager-Maisonneuve, dans un immeuble d'habitation, en fait, dont Monique, la propriétaire, qui est prostituée aussi, est le personnage central. Le livre, d'ailleurs, est disponible au SQLA.
Oui,
aussi.
Je me souviens très, très bien de ce livre-là.
Oui, c'était un enchevêtrement de personnages.
Oh,
et Jean-Simon Desrochers reprend un peu la même formule dans la majorité de ses romans qu'il publie par la suite. Alors, en 2011, par exemple, dans Le Sablier des Solitudes, ce sont des personnages qui sont tous impliqués dans un carambolage sur la rive sud lors d'une journée d'hiver. Et c'est un peu le même principe en 2017, donc avec L'Année Noire, où cette fois-ci, les événements sont centrés sur autour de la disparition d'un jeune garçon de 8 ans dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve.
Okay.
Alors, on qualifie l'écriture de Jean-Simon Desrochers souvent d'hyper-réaliste, d'une part parce qu'il reprend un peu la formule que Balzac et Zola, par exemple, ont utilisée au 19e siècle, où ils font des romans dans lesquels les personnages se retrouvent d'un roman à l'autre, mais c'est des séries, c'est des fresques complètes d'une société. Et aussi, on parle d'hyper-réalisme parce qu'il va décrire vraiment la réalité de façon extrêmement crue. Il n'y a pas de ménagement. Quand il parle de violence ou de sexualité, c'est pas fait pour des oreilles chastes. C'est tout le contraire du livre de Dominique Bertrand. J'ai l'impression que je n'ai pas lu au complet. Mais si je me fie aux extraits, il y a plus de violence, en tout cas.
Oui, ça, je vous le confirme. Mais c'est encore surprenant.
C'est beau.
Il y a violence et violence.
C'est oui, tout à fait. Alors, c'est un roman, donc, Les Inquiétudes, qui est extrêmement complexe. Ça se déroule sur 6 mois. C'est les 6 premiers mois de cette année noire, donc. Et il y a une vingtaine de personnages qui sont qui sont tous aussi importants les uns que les autres, même si, évidemment, les deux parents du jeune garçon qui est disparu ont un rôle prépondérant, mais en termes de nombre de pages, par exemple, qui leur sont consacrées, c'est pas les personnages qui prennent le plus de place.
D'accord.
Alors, parmi ces 20 personnages, ces 20 et quelques personnages, on retrouve donc Diane et Alexandre, qui sont les parents de l'enfant qui est disparu, le petit garçon de 8 ans, qui s'appelle Xavier. C'était un couple déjà chancelant avant la disparition de leur enfant. Diane pensait laisser Alexandre, qui était un ancien joueur de hockey, qui était un peu désabusé de la vie. Il a dû arrêter sa carrière à cause de blessures et probablement aussi à cause d'un manque de talent. Et lui, par contre, lorsque son enfant disparaît, il décide de réagir, il se débat, il met en place un comité de citoyens. Ça donne un sens à sa vie jusqu'à un certain point. Alors que Diane, elle, s'effondre complètement. Elle, qui était pourtant la femme forte du couple, s'effondre totalement. Diane va faire affaire avec son frère, Achille, qui est un ancien policier et qui est maintenant détective privé, pour essayer de retrouver son fils disparu, parce qu'elle ne croit pas du tout que les manœuvres de son mari, Alexandre, suffiront et seront utiles. Ce frère-là va engager Marc, qu'on avait retrouvé dans un de ses romans précédents aussi, qui sort d'un séjour, il vient tout juste de sortir d'un séjour en hôpital psychiatrique à la suite d'une tentative de suicide, et que donc Achille, le frère de Diane, va engager pour faire des recherches de façon plus précise. À tous ces personnages-là, donc, qui sont un peu le centre familial donc, du roman, vont s'ajouter des voisins, qui vont croiser de façon tout à fait naturelle, parce qu'évidemment, ils sont dans le même entourage, qui vont croiser ces personnages-là. Alors, il y a Anne, une serveuse vietnamienne, qui suscite l'amour de deux personnes, le plongeur qui travaille au même restaurant qu'elle, qui va devenir pyromane, et paradoxalement, un pompier qui va sauver Anne d'un incendie qu'a allumé le plongeur pyromane. On va retrouver aussi une lectrice de nouvelles d'origine haïtienne dont la vie, malgré son succès, est un peu sur le déclin. Un poète punk qui est un peu une caricature de Denis Vanier, qui est le bienfaiteur d'un sans-abri qui vit dans un cabanon et donc dont il s'occupe. Un don Juan qui est professeur à l'université et qui va séduire trois jeunes sœurs successivement, dont une de ses étudiantes. Monique, la propriétaire de l'immeuble dans lequel se déroulait la canicule des pauvres, qui est encore prostituée, mais qui est devenue, qui s'est recyclée comme psychologue, mais qui dit que les psychologues, avec un petit plus. Évidemment, on peut se douter, vu la métier qu'elle faisait,
d'accord.
En quoi consiste le petit plus.
D'accord.
Il y a aussi des personnages, il y a quelques personnages dont le destin est un petit peu plus léger. Une enseignante, entre autres, qui a perdu son mari et son fils. Bon, c'est pas très léger. mais qui, à la suite d'une mésaventure, va retrouver l'estime de ses élèves alors que ses élèves riaient un peu d'elle parce qu'elle était terne et taciturne. Et on retrouve aussi, ça c'est vraiment les deux seuls personnages qui vivent quelque chose d'un peu, qui vient égayer le roman, ces deux personnes âgées qui se retrouvent dans un centre pour retraités, qui vont vivre une histoire d'amour qui est tout à fait touchante et rafraîchissante. Ça fait du bien parce que dans cet enchevêtrement très complexe et extrêmement réussi, jamais je n'ai senti que les événements, que les personnages se croisaient de façon forcée. C'est tout à fait naturel. Mais dans tous ces personnages-là, il y a vraiment des moments extrêmement difficiles, pénibles à la lecture aussi. J'aime autant en avertir les auditeurs, les lecteurs éventuels, parce que moi, comme lecteur, il y a vraiment des passages
qui vous ont dérangé,
qui m'ont pas juste dérangé, qui m'ont vraiment
bouleversé.
Bouleversé, c'est même pas assez fort. Je vous donne des types d'exemples. Il y a entre autres une scène de sadisme, de torture en fait, qui est menée par Achille, le détective.
Le mari, oui.
Non, pas le mari, le détective, le frère de Diane.
Le frère, excusez.
Et qui fait subir à un suspect potentiel une scène de torture qui est digne des 7 jours du Talion. Là. Je ne sais pas si pour ceux qui ont lu le roman de Patrick Sénécal. C'est extrêmement visuel et l'écriture de Jean-Simon Desrochers est extrêmement froide et très chirurgicale. Ça prend ça parce que sinon, ce serait absolument insupportable. Mais malgré ça, et peut-être à cause de ça, c'est extrêmement difficile aussi.
Cela dit, vous avez un extrait pour nous.
Oui,
j'imagine que vous n'en avez pas choisi un.
J'en ai choisi un qui est plus léger parce qu'il y a des scènes de pédophilie qui sont les pires. Il y a certaines phrases qui, moi, me sont restées dans la gorge. Là, il y a une phrase que j'ai reprise, j'ai bloquée 10 fois. Il a fallu que je pense à autre chose pour être capable de me rendre jusqu'au bout pour être capable de me rendre jusqu'au bout. Mais là, j'ai choisi un extrait plus tendre parce qu'il y a des moments de tendresse aussi. Et dans cet extrait-là, c'est le poète, donc Punk, qui a croisé Diane, la mère dont le fils est disparu, qui l'a croisé dans un parc et qui, la voyant désespérée, décide de la ramener chez lui.
D'accord.
Alors, ça commence avec une réplique de Patrick, le poète. Ah, il me reste du cognac et du rhum aussi. Je vous roule un joint? Diane a envie d'acquiescer à tout. Elle n'a pas bu depuis plusieurs mois. Elle répond simplement oui. Le jeune homme apporte les bouteilles sur la table. Il invite Diane à s'asseoir, apporte son nécessaire à joint. Il dit qu'il s'appelle Patrick Winter, qu'il est poète, ce qui fait sourire Diane. Comme si c'était un métier. Il raconte que son premier livre sera publié à l'automne. Diane l'écoute et fume, l'écoute et boit. Sourit et fume. Le temps d'un silence intoxiqué, elle observe son hôte sans remuer une paupière. Il a des yeux de perdu. Un poète perdu? C'est pas ça l'expression? Un poète maudit, me semble. Des yeux de poète maudit. C'est pas pire, des yeux de même. Patrick lui renvoie un silence équivalent. Moi, mes yeux, c'est un regard de rien. Femme de rien. Femme de vide pour rien. À quoi tu penses? Hein? Là? Oui, tes yeux. Ils me disent que tu penses à quelque chose. L'effet de l'alcool et du second joint pousse Diane vers la vérité. Mentir demanderait un trop grand effort. Je me disais que j'étais une femme de vide pour rien. C'est de la poésie, ça? Non, pas vraiment. C'est juste la maudite vie plate. Mais ça part de là, la poésie. Un autre silence. Léger sourire des deux côtés. Celui de Diane ne dure pas. Les larmes jaillissent sans avertir. Une crise imparable. Elle s'excuse, fait mine de s'en aller. Patrick se lève et, d'un geste brusque, la presse contre lui. Il n'y a personne qui sort de chez nous en broyant. Fais sortir ce qu'il faut. C'est vraiment donc, ces moments de tendresse-là sont extrêmement rares, mais ils sont d'autant plus touchants que justement, ils font un contraste avec la violence.
Avec le reste,
c'est
avec
ça. Et ils font du bien, ils sont d'autant plus émouvant que c'est, vous l'avez vu, décrit dans une langue extrêmement sobre.
Absolument.
Autant dans les dialogues qui sont très naturels, on n'a pas l'impression que l'auteur surcharge. C'est très juste, c'est très simple. C'est entrecoupé de monologues intérieurs aussi qui sont indiqués en italique et que moi, comme lecteur, j'essaie de faire sentir en changeant un peu le ton. Mais qui sont aussi d'une très, très grande justesse, d'une très grande sobriété. J'ai très hâte de lire le deuxième tome qui s'appelle « Les certitudes » parce que dans le premier tome, « Les certitudes », les inquiétudes dans le premier tome, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé au jeune garçon. On s'en doute un peu vers la fin, mais dans le deuxième tome, évidemment, qui s'intitule Les certitudes, on comprend que bien des choses vont se dénouer et se préciser.
Merci beaucoup, Luc Mercure. Je voudrais qu'on rappelle le titre de ce livre, Les inquiétudes de Jean-Simon Desrochers. Ça fait longtemps que je veux inviter M. Desrochers à cette émission-là et vous m'en donnez encore plus l'envie. Merci beaucoup, Luc Mercure.
Ça me fait plaisir.
Au plaisir. Il y a quelques semaines, on a remis les prix du gouverneur général 2017, les prix littéraires. Et je suis très contente parce qu'il y a deux personnes, notamment sur les quelques auteurs que je vais vous citer maintenant, que j'ai reçus à cette émission-là, dont tout récemment Serge Bouchard. Vous l'avez sûrement encore en mémoire, c'est tout frais. On l'a reçu au mois d'octobre dernier pour « Les yeux tristes de mon camion ». Qui a reçu le prix du gouverneur général 2017 dans la catégorie essai. Vous savez, ce sont toutes sortes d'histoires qu'il nous raconte sur ces milliers, voire ces millions de kilomètres qu'il a parcourus. Serge Bouchard, lui, qui adore rouler, qui a roulé très longtemps dans des vieilles minounes. Il se demandait toujours, après un virage, si ça n'allait pas le lâcher là, ici, en plein milieu de la route 66. Mais finalement, d'ailleurs, ça n'est jamais arrivé. Et puis, il y a cette passion dévorante qu'il a pour les camions et pour les camionneurs et ces rencontres qu'il fait avec ces camionneurs. Là, lui qui leur parle via les ondes, hein, parce que et les camionneurs qui, quand ils roulent, eh bien, il y a une voix qui les affectionne particulièrement et c'est celle de Serge Bouchard. Alors, il y a dans le livre Les yeux tristes de mon camion, ben c'est ça, quelques merveilles, quelques personnages absolument prodigieux qu'on retrouve. Mais je dis prodigieux, c'est pas vrai. Ce sont des personnages souvent très simples. Ce sont des gens, j'allais dire, comme vous et moi, c'est-à-dire ce sont justement pas des vedettes ou des choses comme ça, mais ce sont des gens qui ont tellement de choses et de belles choses à dire, et notamment, c'est vrai, pour les chauffeurs de poids lourds. On se souvient aussi de « C'était au temps des mammouths laineux », ça aussi, c'est un livre qu'il avait rédigé en 2012, Serge Bouchard, et que nous avons également au SQLA. En ce qui concerne « Les yeux tristes de mon camion », je vous invite non seulement à aller vous procurer ce livre au SQLA, mais aussi je vous invite à réentendre cette émission consacrée à Serge Bouchard, l'émission des livres plein les oreilles, qui a été diffusée le 26 octobre dernier. Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin a remporté le prix du gouverneur général 2017 dans la catégorie roman et nouvelle. Je n'ai pas encore lu ce livre-là, mais je sais que c'est un livre qui a été lu, par exemple, et qui est maintenant présenté en version adaptée. On est dans une véranda qui est cousue de courants d'air. Nous sommes en retrait d'un village sans électricité où s'organise la vie de Mathias et d'un homme accidenté qui lui a été confié juste avant l'hiver. Alors, telle a été l'entente, le vieil homme assurera la rémission du plus jeune en échange de bois de chauffage, de vivres et surtout d'une place dans le convoi qui partira pour la ville au printemps. Mais les centimètres de neige s'accumulent et chaque jour apporte son lot de défis. Près du poêle à bois, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au gré des conversations et des visites de Joseph, Jonas, Jean, Jude, José et la belle Maria. Et puis les rumeurs du village pénètrent dans les méandres du décor. L'hiver pèse, la tension est palpable et on se demande dans ce livre-là s'ils vont tenir le coup. Un livre dont certains auteurs ont dit « Nous sommes pris au piège », certains lecteurs, pardon, ont dit « Nous sommes pris au piège dans une mer de glace, nous sommes 20 000 lieues sous l'hiver ». Un autre a dit « Ce n'est pas ni la neige, ni le froid, ni la noirceur, ni la faim, c'est le temps qui viendra ». À bout de nous. Alors voilà pour le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin, prix du gouverneur général dans la catégorie roman et nouvelle. Et puis, je voulais vous parler de Louise Dupré. Louise Dupré que j'ai déjà reçue à l'émission des livres plein les oreilles pour l'album Multicolore notamment, qui est un livre de toute beauté. Mais vraiment, c'est un petit bijou de bouquin. Eh bien, c'est disponible au SQLA, également L'été funambule, La Memoria, Plus haut que les flammes et La voie lactée. La main hantée de Louise Dupré, dans la catégorie poésie, a donc gagné cette année le prix du gouverneur général. Je ne sais pas s'il sera enregistré chez nous ou peut-être par une autre société, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les livres que je vous ai cités de Louise Dupré sont disponibles et c'est une écriture vraiment délicieuse. Alors, j'avais quand même envie de vous le faire savoir. Voilà pour les prix du gouverneur général 2017. Rapidement, je voulais vous dire que la semaine prochaine, l'émission des livres pleins les oreilles fait relâche. En fait, c'est son animatrice qui va faire relâche pendant une minute, ce qui va vous permettre, j'espère, de pouvoir réentendre la toute première émission de la saison qui était consacrée à Antonine Maillet. Et ça avait été vraiment un très, très beau moment. Ne ratez pas cette femme, cette vivacité, cet humour. Je veux dire, elle a la langue aussi pétillante que les yeux. Et alors, quelle écriture, quoi. Ce livre-là qu'elle était venue nous présenter. Comment ça s'appelait donc déjà? Je l'ai perdu, mais je l'ai ici. Non, c'était « Lettres de mon phare », voilà, les « Lettres de mon phare ». Et puis la semaine d'après, je vais recevoir Marie-Renée Côté, qui est auteure du livre « Mémoire d'une gardienne de prison », une femme avec qui j'ai déjà parlé une fois ou deux par téléphone et que j'ai très très hâte de rencontrer, parce qu'une prison, c'est pas seulement unité 9, hein, c'est aussi la vraie vie. Et la vraie vie, en dedans, eh bien, elle l'a connue et elle nous en parle, et c'est un livre très très cru, très, mais aussi très vrai, et donc j'en parlerai avec son auteur, Marie-Renée Côté. Quelques titres en rafale avant de vous quitter. Into the Wild, l'histoire de mon frère, de Karin McCandless. Nous sommes au mois d'avril 1992. Christopher McCandless décide de s'enfuir pour voyager seul à travers l'Amérique. Il va errer pendant 2 années avant de s'installer au cœur de l'Alaska. Il ne survivra pas à cette retraite sauvage et il va mourir seul dans un bus désaffecté. Son aventure a été relatée par John Krakauer dans Into the Wild et elle deviendra d'ailleurs cette aventure un best-seller mondial adapté au cinéma par Sean Penn. Et aujourd'hui, Chris McCandless est l'icône de tous ceux qui souhaitent se détacher d'une vie trop matérielle pour vivre en harmonie avec la nature. Plus de 20 ans après la mort de Chris, Karine, sa sœur et proche confidente, a décidé de sortir du silence et de révéler pourquoi son frère a choisi d'abandonner sa famille et ses proches pour mener cette vie dépouillée et solitaire. Alors dans ce livre, Into the Wild, l'histoire de mon frère, Karine McCandless brise le silence et revient sur leur jeunesse dans une famille instable, à l'ombre d'un père manipulateur et violent. Elle est convaincue que seule la vérité permet de dépasser la douleur. Elle a choisi de dévoiler ce qui a poussé son frère à se retirer du monde et finalement à en mourir. Un livre jeunesse tient « Quand hurle la nuit » de Mario Brassard. Il attendit encore, encore et encore, juste le temps qu'il fallait pour ne plus entendre le bruit des crocs. Couché sous un drap de laine, Salikou tremblait un peu. Et s'il le confondait vraiment avec un mouton? Il espérait de toutes ses forces que les loups n'avaient plus faim, qu'ils n'auraient plus jamais faim. Quand il fut à peu près certain que les loups avaient quitté la pièce, le ventre plein, il se risqua à tendre l'oreille à l'extérieur du lit comme un chasseur aux aguets. Si ce n'était pas de son cœur qui bourdonnait si fort dans sa poitrine, on aurait pu entendre voler une mouche. C'est un roman jeunesse à lire à partir de 11 ans. Un merci de trop de Karen Ponte, P-O-N-T-E. Alors s'il fallait décrire Juliette en un seul mot, transparente serait sans nul doute le bon mot. Oui, c'est ça, transparente. Depuis qu'elle est toute petite, Juliette a toujours fait ce que l'on attendait d'elle, pour ne pas déplaire, pour ne pas décevoir, mettant de côté ses rêves et celle qu'elle est vraiment. Résultat, à 30 ans, elle mène une vie sans relief et ennuyeuse au possible, une vie dans laquelle choisir entre lasagne et sushi est un événement. Pourtant, elle se sent de plus en plus à l'étroit dans cette vie, dans cette peau. Elle a envie de crier qu'elle n'est pas cette fille sans personnalité. Elle a envie d'aborder celui qu'elle croise tous les jours dans son immeuble pour lui dire qu'il lui plaît. Et par-dessus tout, elle a envie enfin de réaliser son rêve, celui de devenir écrivain. Il n'est jamais trop tard pour devenir soi. C'est ce que va découvrir Juliette au détour d'un merci, un merci de trop, même si elle est loin d'imaginer ce qui va en découler. Et enfin, Coco d'Antoine Charbonneau de Mers. Dans son Racoin du monde, un garçon de 12 ans est repéré par Marie-Thérèse Lambert, actrice tordue et malheureuse, qui décide de le prendre sous son aile. Des années durant, elle lui apprendra à se délecter de son propre malheur et surtout à susciter la pitié des autres, comme le faisait son alter ego, l'infâme Camélia Caz, du temps où elle se suicidait sur les scènes de New York. Coco, vous l'aurez compris, c'est un roman d'apprentissage complètement déjanté et minimaliste dont l'humour caustique se fait tour à tour jubilatoire et inquiétant, nous dit-on. Coco d'Antoine Charbonneau de Mers. Alors ainsi s'achève cette émission des Livres plein les oreilles. Pour cette semaine, je voudrais remercier mes invités, à commencer par Jean Brière, Luc Mercure et la charmante Dominique Bertrand qui est venue nous rendre visite pour nous présenter Le Cœur Gros. Merci beaucoup Mathieu Tessier. En régie aujourd'hui, c'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine, surtout de belles lectures et rendez-vous la semaine prochaine avec Antonine Maillet. Salut.